Bonjour, les papous en piste. Jusqu'à 13h58, au menu, une supposition. Et la deuxième partie des petits mots et gestes de connivence par les papous Pouy, Almassy, Jouet, Delbourg et Fournier, Lucas.
Alors quand je parle européen, je fais parfois de la comitologie. Et pas comicologie, non, comitologie. C'est la science des comités. Alors qu'est-ce que c'est qu'un comité ? Un comité tout court, c'est selon Churchill, un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes qui décident collectivement que rien ne peut être fait.
Rubrique souvenir, l'assiette de Clémentine Mélois. Et puis une page de pub et parlons-nous de la même chose ou culture du malentendu. Comprend-on vraiment Odile Conseil ? À voir. Ensuite, notre feuilleton Madeleine, pourquoi tu déménages ? Jacques Jouet, on quitte Issoudun pour Clermont-Ferrand.
Tu sais pourquoi j'ai choisi Clermont-Ferrand ?
Non.
D'abord, il y a deux noms, Clermont et Ferrand. En fait, Clermont et Montferrand, c'est un nom-valise. Deux noms. C'est un peu comme si nous déménagions deux fois. C'est magnifique, qu'est-ce que tu en penses ?
Et pour boucler ce numéro des papous, rime de hasard pour poème à notre façon et la critique débourrimée. Françoise Tressart et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. À télécharger sur franceculture.fr, c'est le podcast. Merci de votre complicité et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook en toute amitié virtuelle. On se lance avec Hervé Le Tellier pour une histoire de supposition. Comme disent les enfants, on dirait que tu t'appellerais. Suis un nom et un récit dont la chute sera un calembour drôlement culturel. C'est Hervé qui raconte et qui s'adresse à qui ?
Je m'adresse à JB.
Oui, JB Pouy lui-même.
JB Pouy. JB suppose que tu t'appelles Sto.
Sto.
Depuis tout petit, tu adores les jeux de construction. C'est ton truc à toi. Avec des pièces de bois de toutes formes, tu construis des maisons, des ponts, des châteaux. Rapidement, tu te fais une réputation de bâtisseur hors pair et ta créativité et ton adresse suscitent l'admiration. Partout, on t'invite et tu fais ta démonstration car tu viens avec tes planchettes et tes blocs de boulot. Et te voici chez le duc de Montmorency. Tout se passe bien, mais juste après ton numéro, tu disparais. Et que trouve le duc de Montmorency au centre de la table de salle à manger ? La reproduction à l'échelle 1/100 du Taj Mahal, entièrement en briquettes de gruyère. Évidemment, c'est pas possible. Les invités vont arriver. Alors comme il le peut, le duc débarrasse et t'appelle « Sto !» Il est en colère, c'est normal. Ses mains sentent le gruyère et les invités vont arriver. Oh là là. Trois jours plus tard, te voici chez le marquis de Lafayette. Tout se passe fort bien jusqu'à ce que... Mais c'est pas possible, Sto ! Tu as construit la réplique de la Statue de la Liberté avec les pâtes de fruits au plein centre du grand salon. Tu es vraiment cinglé. Aussitôt, le marquis l'enlève et hurle « Sto !» Il a les mains toutes collantes, évidemment qu'il est furieux. Une semaine plus tard, te voilà invité chez le comte de Paris. Ton petit spectacle se déroule pour le mieux. Tout le monde croit que tu as résisté à la tentation de faire une nouvelle sottise. Le comte de Paris va se coucher. Et dans sa chambre. Et oui, sur le grand lit, il a la tour Eiffel. La tour Eiffel entièrement faite avec des calissons d'Aix tout collés. Et là, que crois-tu qu'il va arriver ? Eh ben, le comte des Monts écrit.
Sto. Redites-nous ça, c'est trop joli la
que
fin.
Que crois-tu qu'il va arriver ? Le comte démonte écrit Sto.
Voilà, bravo. Le comte de Monte Cristo qui est un de vos romans préférés, Jean-Bernard Pouy.
Absolument pas.
Ah bon ? Non, non. Je croyais.
C'est n'importe quoi.
Mais si t'aimes pas ce roman, il faut être stoïque.
Ah. Place à l'inventaire des mots, des gestes, de connivence. Nos mots de passe pour vivre avec les proches et que les autres ne comprennent pas. On a tous nos mots clés pour se sentir bien entre amis ou amour. Une série ouverte dimanche dernier avec Jean-Bernard Pouy, Eva Almassy, les Jacques Jouet et Vallée, Patrice Delbourg, qui adore égrener des listes au bistrot avec ses potes, et Lucas Fournier, qui lui est très fort en vocabulaire de l'Europe. On commence avec vous, Lucas.
Alors, quand je parle européen, je fais parfois de la comitologie. Et pas comicologie, non, comitologie. C'est un mot qui fait déjà souffrir, comitologie. Hein. C'est la science des comités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comité ? Un petit comité, on voit à peu près. Mais un comité tout court, c'est selon Churchill un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes qui décident collectivement que rien ne peut être fait. Alors ce concept n'est pas propre à l'Europe d'ailleurs, il doit exister aussi des comités en France, même peut-être ici à la Maison de la Radio, je ne sais pas, mais je ne veux pas me fâcher avec les autorités. Donc, quand on dit qu'un sujet relève de la comitologie, ou qu'on va faire de la comitologie, ça veut dire qu'on va réunir des experts qui vont discuter pendant plein de jours de plein de choses dans un comité où personne ne sera à la fête. Voilà, je crois que tout est clair à présent.
Ça fait envie hein, quand même. Oui. Jacques Vallée.
Alors, dans certaines régions, notamment en Bretagne, il n'est pas rare de trouver le long des routes des calvaires. Et je connais quelqu'un qui, chaque fois qu'il était en voiture avec sa femme, très croyante, qui se signait en croisant un Christ de pierre, disait résigné, encore un calvaire solitaire.
À vous, Patrice Delbourg.
Quand il fait moche dehors, quand les nouvelles sont maussades, j'aime à m'attabler dans l'arrière-salle de la civette, rue Elzévir. Oui. Et j'égrène avec des amis devant Force Vert de Pouilly Fumé les titres des aventures de Bob Moran, le héros de notre enfance.
Enfin, de la vôtre, hein, parce que...
Le gorille blanc, l'ombre jaune, mission pour Tulé, le tigre des lagunes, la galère engloutie, l'empereur de Macao, les géants de la Taïga, le masque de Jade. On est bien.
Je ne sais pas si ce ne sont pas les petits verres de vin blanc que vous buvez en même temps qui vont en signer.
C'est les mots de passe, c'est les mots de Maquisard qui nous tiennent debout.
Jean-Bernard Pouilly.
Dans une soirée, quand j'estime avoir assez bu, je peux estimer ça,
ça
quand
arrive,
même.
Ça arrive, ça.
Parce qu'après, on ne peut plus. Mais il y a un moment donné où on peut estimer avoir assez bu, et donc de façon à pouvoir rentrer chez soi dignement, disons. Donc je me mets à chanter à la première occasion... le pinard, c'est de la vinasse. Vous connaissez, le pinard, c'est de la vinasse. Ça fait du bien à part où. Et là, généralement...
Ah oui, ça passe, c'est ça.
Allez, vinasse, remplis mon car, vive le pinard, vive le pinard. À ce moment-là, la personne qui m'accompagne comprend qu'il est temps de rentrer.
ça, c'est clair.
Il est temps de mettre les voiles, surtout pour éviter le ridicule. Parce qu'un couplet, ça va. Deux couplets, ça commence à craindre, quand même. Hein, on soigne l'époux avec de l'insecticide. Bon, pardon,
mais ça se chante où, ça ? Dans les colonies de vacances,
c'est une vieille chanson.
Chez les Polars 2, ça se chante.
Ah, d'accord. Et Val Massy ?
Bon, bouillabaisse mise à part, mes rosebuds à moi sont plus difficiles à deviner que celui du Citizen Kane, puisque sont souvent hongrois. Et parfois, ça se corse. Avec ma sœur, on avait... un mot de passe qui était toute la première strophe d'un poème de Pasternak. Et ben, hongrois, c'est extrêmement rythmé. Ne vire, mershui, bemara, tavasnak, maouira, belé, chevesult, avilag. Ben, ça parle de. Ça parle de pluie de printemps. De pluie de printemps qui ont blessé la terre à nouveau. Et en russe, c'est seulement «Moya sestra zhizne», ça veut dire «ma sœur la vie».
Très bien, c'est très bien.
Je préférais la version hongroise, je trouvais plus jolie. Jacques Jouet.
Je ne sais trop pourquoi, je ne sais pas encore pour combien d'années, j'ai toujours appelé mon fils Bouillou.
C'est vrai.
Encore plus qu'avec son prénom, c'est une manière de le désigner sans confusion. Mais attention, c'est à usage unique. Si quelqu'un d'autre que moi appelle mon fils Bouillou, je mords.
C'est Godefroy de Bouillou ? Non, Bouillou.
Lucas, on retrouve l'Europe, non ?
Oui, quand je parle européen, je vais à la Commission. Je ne dis pas je vais aux commissions, non, je vais à la Commission avec une majuscule. Je discute avec la Commission, j'écoute la Commission pense, la Commission étudie, la Commission décide, la Commission intervient, la Commission condamne. Ça fait peur, un peu comme le spectre de James Bond. La commission ne prend pas de commission, elle est peuplée d'ailleurs de commissaires. Pas des commissaires de police ou des commissaires du peuple, non, des commissaires tout court, plutôt sympathiques et compétents. Et vous allez me dire, laquelle de commission, rogatoire, mixte, paritaire, spéciale ? Eh ben non, c'est la commission. Élysée, Matignon, Kremlin, Downing Street, tout ça réunit en une institution, le pouvoir secret et mystérieux de l'Europe. Je crois que tout est plus clair à présent.
On va en connaître un rayon, c'est formidable. On retrouve Patrice Delbourg au bistrot.
Vous n'ignorez pas quand il fait moche et que les nouvelles sont maussades. J'aime à m'attabler dans l'arrière-salle du Braza, rue des Écouffes, et devant Force Chirouble avec quelques amis, on égrène des patronymes de poètes maudits, oubliés.
Ah,
Roger Kowalski, Jacques Prevel, André de Richaud, Francis Giaud, Stanislas Rodansky, Jean-Pierre Dupré, Paul Chollot, Jean-Philippe Salabreuil, Jean Sénac, et on est bien.
Mais mon Braza également. Si je glisse dans une conversation par comparaison les noms de Jacques Demy, Fabrice Lucchini ou Alain Minc, tous ceux qui me connaissent comprennent que pour moi c'est fortement négatif et péjoratif, mais pas forcément pour tout le monde, parce que j'admets que je suis d'une certaine lâcheté dans ce cas-là, parce que 99% des gens adorent Fabrice Lucchini et Jacques Demy, 99,5 même, et 98% Alain Minc, ce qui pour moi est
une source d'interrogation.
Une source d'interrogation. Et 97 à Federer, ça c'est pour vous.
Ah, oh, mais moi c'est du 100% pour Roger. Eva Almassi.
La personne avec qui je partage pourtant tous ces petits mots secrets, je l'appelle le voisin.
Oui.
Et ça, c'est mon compagnon. L'homme de ma vie, absolument, et depuis toujours. Mais je recommande la méthode. Prendre deux appartements sur le même palier quand vivre sous le même toit devient impossible.
Oui, il faut dire ça à Patrice Delvaux.
C'est une question de pouvoir d'achat.
Oui, quand même. Jacques Jouet.
Quand je dis à des gens que je connais très bien, comme disait ma grand-mère, ceux-ci savent parfaitement que ma grand-mère ne disait jamais ça, mais que c'est le moyen d'attester une opinion, une pensée qui pourrait appartenir à la sagesse des nations. Les autres croient bien sûr que ma grand-mère disait effectivement ça, et je ne les détrompe pas. Par exemple, comme disait ma grand-mère, si tu ne manges pas les joues du poisson, un jour tu souffriras de la faim.
Non, moi on m'a appris que c'était le meilleur morceau. Donc je commence par la joue.
C'est le solilège du poisson.
Ah oui, dans la note, hein.
Ouais. Ah non, il y a des tas de poissons.
Une tête de Beaudroit, t'as pas envie de manger les joues.
Hein. Les joues à sardines, merci.
Vous n'ignorez plus désormais que quand il fait moche, j'aime à m'attabler avec quelques amis dans l'arrière-salle de l'Arlequin, rue Castex, et nous égrenons, devant force glace de Tariquet, quelques modèles de Dinky Toys de notre enfance. La Carman Gia, la NSU Prince, la Talbolago, la Simca Montlhéry, la Facel Vega, la Panhard PL17, la Jaguar MK2, la Lancia Flavia, la Volvo 122. Et on est bien.
Quelle nostalgie. Lucas, l'Europe.
Alors quand je parle européen, j'essaye d'éviter le hard Brexit. Alors je veux calmer mes amis hardeurs comme Patrice. C'est du hard, oui, mais on y soit qui mal y pense. Donc le mot Brexit, vous le connaissez. C'est un mot valise qui vient de British et de Exit. Ça désigne la sortie de l'Europe de nos amis anglais. Alors, ce divorce sera-t-il smooth, hard ou dirty? That is the question. Madame May, qui est la première ministre britannique, est plutôt pour le hard. Mais be hard, un divorce où l'on claque les portes. Les autres aimeraient mieux qu'on limite les dégâts. As you like it. Et vous, vous êtes plutôt, Françoise, soft, hein, brexiteuse. Hein, voilà, je crois que tout est clair maintenant.
Je suis transparente.
Raindrops on roses, whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bright. When I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Carmen Souza, my favorite things.
Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
En français dans le texte, par Ricardo Mosner. Souvenir, souvenir. La nostalgie de l'enfance, peut-être. Avec des objets cultes qui se racontent, de la cuisine à la salle à manger, des petits pas qui rappelleront des moments à bon nombre d'entre vous. Clémentine Mélois, vous êtes quoi?
Je suis moi-même, en fait.
Clémentine Mélois,
les objets dont je vais vous parler ne sont plus là pour témoigner.
Ah bon, vous racontez leur vie parce qu'ils vous manquent?
Exactement.
Ah.
Je leur rends hommage.
Ouais.
Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage aux assiettes à dessert de ma grand-mère qui viennent de nous quitter et reposent en miettes ici. Notre peine est immense. C'est à moi qu'il revient de résumer vos vies et les mots me manquent pour évoquer tant de souvenirs communs. C'est ma mère qui m'a raconté votre arrivée dans la famille bien avant ma naissance. Il faut s'imaginer Dieppe sous Douaumont, petit village de la Meuse à 3 km de l'ossuaire de Douaumont où chaque fleur qui pousse est un soupir qui s'étouffe. Nous sommes en 1953. Ma mère a 10 ans. Mon grand-père Georges a une jambe de bois. L'autre, il l'a perdue à la guerre. Il s'est fabriqué un vélo avec un système de ressort qui lui permet de pédaler avec la jambe qui lui reste. Ma grand-mère Germaine, quant à elle, a eu 8 enfants et la tuberculose. Tout cela ne semble pas très gai et pourtant c'est la vie.
C'est bien.
À chaque achat, Germaine collectionne des points COP. Elle colle des timbres de 500 francs sur sa feuille collectrice de timbres consommation. Et lorsque la feuille est pleine, elle choisit un cadeau dans le catalogue des coopérateurs de Lorraine. C'est ainsi que vous êtes arrivé dans la famille.
Oui.
Vous valiez 100 points et vous étiez magnifique. En porcelaine bleue et blanche avec des petites fleurs et un liseré doré. Personne n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Vous étiez précieuse, on vous rangeait à l'étage, dans l'armoire de l'Augustine, avec les jolis verres de la COP, vos cousins. On ne vous sortait que pour les grandes occasions, 3 fois par an. À Noël, à Pâques et le jour de la fête du village. La fête du village avait lieu chaque année fin juin, pour la Saint-Jean d'été, à ne pas confondre avec la Saint-Jean en hiver. Ce jour-là...
Ah
non mais c'est vrai en plus.
Avec un Saint-Jean en hiver, oui.
Il y a vraiment deux Saint-Jean.
Oui.
Ce jour-là, tout le monde se réunissait sur la place. On mettait ses habits du dimanche. Il y avait une baraque qui vendait des bonbons, de la réglisse enroulée en spirale et des pommes d'amour. Il y avait aussi, chose exceptionnelle, un manège, constitué de sortes de sièges baquets attachés au bout d'une chaîne. Le manège se mettait à tourner et les sièges s'envolaient et tournaient à toute vitesse. C'était merveilleux. Ces jours-là, on vous sortait de l'armoire de l'Augustine pour manger de la brioche achetée chez le boulanger. Une brioche ronde avec un trou au milieu et des petits pics sur le dessus. Le boulanger, c'était la Nénette et avant ça la Suzanne ou le Gaston. Et il fallait réserver la brioche à l'avance les jours de fête pour être sûr d'en avoir. À Noël, on allait à la messe de minuit qui se terminait plutôt vers 11h du soir. On chantait Minuit chrétien et quand on rentrait... On buvait pour se réchauffer un chocolat chaud avec de la brioche. Et on veillait tard. À Pâques, c'était de la crème aux œufs et à la vanille qu'on servait. On ne vous sortait que les jours de fête. Aussi, vous n'avez jamais connu la tarte aux mirabelles des journées d'août. Car il n'y a pas de fête en été. Et pour le quotidien, il y avait le service en arcopale translucide, avec un bord rouge ou vert, celui qu'on rangeait dans le placard de la cuisine. Pendant 50 ans, vous êtes sorti de l'armoire 3 fois par an. Ce qui fait quand même 150 fois si on y réfléchit. Votre bleu s'est un peu fané, mais vos fleurettes n'avaient rien perdu de leur charme, ni votre liseré de son éclat. Ensuite, mon grand-père est mort, puis ma grand-mère. On a vidé la maison, et c'est ma mère qui a hérité de vous en 1999. On vous a rangé dans le placard de la cuisine, tout en haut, au-dessus du bahut. On vous sortait pour les grandes occasions, à Noël, à Pâques et pour les anniversaires. On faisait en chantant dans la cuisine une forêt noire avec de la ganache et des feuilles de houx en chocolat, une charlotte aux fruits... ou un fraisier tout recouvert de chantilly qu'on mangeait dans le jardin en ouvrant les cadeaux, sous l'acacia en fleurs. Cette année, à Noël, on a voulu servir le dessert au salon. Pour ne pas qu'un enfant vous casse, par précaution, on a préféré utiliser les bêtes assiettes de tous les jours. On vous a posé en pile, tout doucement, sur la cuisinière à charbon, bien à l'abri. C'est là qu'un dessous de plat vous est tombé dessus d'un coup.
Oh non.
Vous vous êtes brisé toutes les 12 en même temps, dans un éclat de fleurettes et de fragments de porcelaine bleue. Vous n'avez rien eu le temps de sentir... Mais nous sommes tous bien tristes. Jamais plus vous ne serez là pour nos anniversaires. Et sans vous, le fraisier n'aura plus tout à fait la même saveur. Le temps est assassin qui emporte avec lui les rires des enfants, les gens qu'on aime et les assiettes à dessert de la COP. Allez en paix, nous ne vous oublierons pas.
C'est joli, on écouterait 200 pages comme ça de cette chronique.
Il y en a 200 pages.
D'enfance. C'est un tirage.
Il y en a 200 pages. Merci, merci pour ce début. Donc.
Ce n'est qu'un début. Quel bonheur d'entendre l'arcopale.
L'arcopale,
ça
oui.
Fait si longtemps que je n'ai pas entendu ce mot.
Oui,
ça
mais est-ce qu'en arcopale...
Oh, je vous embrasserai, l'arcopale.
everybody searching for happiness.
Round and round, they all race.
And everybody searching in a different way. Sits underneath a banana tree and sings to the workers on the rancho. He sings them a song of philosophy, and this is what is coming out of Pancho.
Happiness, happiness.
Everybody searching for happiness.
Round and round, they all race.
And everybody searching in a different way. The poor man, he would give his soul if only he had the rich man's gold. The rich man, he would give his wealth if only he had the poor man's health.
Happiness, happiness.
Everybody searching for happiness.
Round and round, they all race.
And everybody searching in a different way.
Une page de pub, oui, mais culturelle, décalée. Autrement nommé Publipapoucité. Alors c'est bizarre, il y a plein de gens qui butent sur ce mot à peine valise, c'est un bon exercice d'articulation. Une Publipapoucité proposée par Éval Massy, avec Patrice Caumont, Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier et au piano Gabriel Godard.
Faites comme moi, collectionnez les pierres, une valeur sûre, une passion pour la vie. Admirez mes pierres brutes, mes pierres roulées, mes pierres taillées.
Faisons d'un pierre deux coups, Pierre premier de Russie, Pierre premier de Serbie, roi et empereur.
Pierre de soleil, pierre de lune.
Pierrot lunaire de Schönberg.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Pierre volcanique, pierre de lave.
Sans l'ambre d'un doute, Pierre Ponce s'en lave les mains.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement pierre, ce poète-là, complètement roi. Il a une histoire, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa science, les gars, elle est drôlement physique, les gars. Ça continue comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a?
Au rayon des pierres qui rayonnent, prenez du Pierre Curie.
Je suis amoureuse de Pierre dans Guerre et Paix. Mesdames, vous n'aurez jamais un meilleur mari.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Théâtre, cinéma, opéra, complètement saga. Il a un roman, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et les politiques, les gars, ils sont drôlement actifs, les gars. Ça finit pas comme ça.
Il me faut un tas de pierres, un tas. Il me faut des pierres en lot.
Pierre Loti, donc, et son pêcheur d'Islande.
Pierre qui roule like a rolling stone, ne roule pas sur l'or.
Gilet rose, Pierre de Ronsard, en promotion.
Pierre Boulez, c'est balèze. Mais si vous baillez aux corneilles, que ce soit du Pierre Corneille, Dac.
Dac, Dac, mon nom est Pierre Dac.
J'aime les pierres dures, j'aime les pierres tendres.
Vous aimerez deux fois plus Pierre Reverdy qui dit « Je suis dur, je suis tendre et j'ai perdu mon temps. » À rêver sans dormir, à dormir en marchant.
J'aime marcher près des carrières de pierre.
Des carrières à gauche, Berger, Bérégovois, Jox, Moscovici, Mauroy, Pierre Mendès-France, Bourdieu. Des carrières à droite, Pierre Pompidou, Pierre Chirac, Pierre de Gaulle.
Ici, on déshabille Pierre sans habiller Paul.
Pierre Balmain et Pierre Cardin pour vous rhabiller.
Brasseur, Freiné, Arditi, on en oublie. Desproges, Trois-Gros, Richard.
De Fermat compte aussi, et les comptes de notre Pierre Gripari.
L'important, c'est de participer, n'est-ce pas, Pierre de Coubertin?
Les pierres ont du magnétisme, des vibrations, des vertus thérapeutiques. J'aime toucher les pierres polies.
Pour rester poli, ça me démange d'emprunter le mot de Pierre Cambronne au dictionnaire de Pierre Larousse.
J'apprécie l'éclat, les formes, la nudité des pierres.
Mais enfin, et Pierrette, on ne la déshabille pas?
Si, si, demandez à Pierre Bonnard, il les déshabille toutes.
Pierre Soulage, il les déshabille aussi, mais dans le noir complet.
Les pierres à feu, en frottant, font des étincelles.
Ça, oui, comme Pierrot le Fou.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, parlons-nous de la même chose. Le deuxième épisode du feuilleton de Jacques-Jules. Madeleine, pourquoi tu déménages? Et rime de hasard pour poème à notre façon, par Jacques Vallée et Ricardo Mosner, suivi de la critique des bouts rimés avec Eva Almassi et Jean-Bernard Puys sur le poème de Ricardo.
Il y a chez Mosner un côté guerre des Malouines, mais, mais rien qu'avec des mots. Je t'ai cru à même les braises, des mots que l'on monte à cru comme des étalons. Des textes où l'on meurt en dansant, où l'on se tue en s'embrassant, où l'on pleure en chantant, où l'on rit en les déchiffrant.
À tout à l'heure, Jean-Bernard. D'abord, nous jouons à parler de la même chose ou pas. Un jeu où se cultive le malentendu, mais en toute honnêteté. Alors voilà la situation. Odile Conseil a choisi de nous raconter une certaine chose, sans tricher, mais sans la nommer pour autant. Patrick Beignet a lu le texte dans lequel elle racontait, s'est fait une certaine idée de la chose et a écrit à son tour sur cette chose, ainsi de suite pour les suivants. Ont-ils tous pensé à la même chose ou pas? Nous remonterons la chaîne des malentendus avec Jacques Vallée et chacun devra justifier ses mots. Odile Conseil, donc à vous de jouer, de parler de cette chose à laquelle vous pensez. Peut-être êtes-vous venu avec elle, elle serait dans votre sac ou alors dans la grosse valise qui est dans le coin de la porte.
Allez
là.
Savoir.
Allez savoir. En tout cas, vous, vous avez réfléchi à une chose. Est-ce que c'est parce que c'est une chose que vous aimez bien, Odile?
C'est une chose que j'aime bien, mais personne autour de cette table ne le sait.
Bon, très bien.
Et donc, ça va être une révélation.
Oui. Comme vous l'aimez bien, vous vous êtes dit, tiens, je vais en parler, mais sans dire son nom.
C'est cela.
On écoute.
Comment le définir? C'est un objet nomade, mais pas du genre de ceux qui vous laissent en rade. On l'emmène partout, dans les bois, les cités, même dans les endroits sans électricité. Il enchante le moment et réchauffe le cœur, enfin quand on s'en sert avec un peu d'ardeur. Il va dans toutes les mains, celles des hommes, celles des femmes. Certains s'en sont servis pour déclarer leur flamme. Pour le qualifier, je dirais vif, allègre, pas du genre qu'on trouve chez un pisse vinaigre. On l'a vu au ciné, dans des scènes à la plage. D'une vedette blonde, il toucha le corsage. Le sortir à l'église n'est vraiment pas de mise. Et pour écrire son nom, 4 lettres suffisent.
Ah, c'est un mot de 4 lettres? Lucas Fournier, ça vous évoquerait quelque chose si vous deviez jouer?
Un pavé?
Un pavé, oui, il y a 4 lettres.
Et on ne le sort pas à l'église en général, voilà.
Non, ce serait malvenu, oui.
Un pavé dans la mare. Mare aussi, il y a 4 lettres.
Bon, en tout cas, c'est Patrick Beignet qui, pendant le temps d'écriture, a reçu votre texte. Content, c'était un joli texte.
De quoi? De moi?
D'abord du texte de Dille.
J'ai strictement rien compris du texte de Dille. Je pensais que ce qui pouvait arriver de mieux.
Et de vous, j'espère que vous êtes toujours content de vous, parce que vous auriez tort de ne pas l'être. Voilà. Donc vous vous êtes fait une idée de la chose dont elle parlait.
C'est un grand mot, une idée de la chose.
Petite?
J'ai essayé de faire un texte moi-même, oui, de tâcher de le raccrocher.
Vous avez pensé à quelque chose
j'ai
en
pensé.
La disant. Mais c'est toujours bien de penser. C'est toujours une très bonne idée voilà. De penser. Et donc vous en parlez à votre tour,
et oui.
Sous une forme de prose,
c'est vous qui
je suppose.
Demandé.
Oui, oui, parce que vous aimez bien la prose.
En principe, c'est un bel objet, encore que la beauté ne me paraisse nullement nécessaire pour le faire exister. S'il était laid, il fonctionnerait tout aussi bien. Plutôt que beau, cet objet doit sans doute être étrange. Son étrangeté trahit son origine exotique, je suppose, car il vient de loin, nous dit-on, de très loin. Ses formes fantasques, ses couleurs imprévisibles, nous parlent d'un monde un peu féerique qui n'est pas le nôtre, à nous autres occidentaux. Mais je crois que Cyrano de Bergerac a pu s'en servir, en jouer, l'inventer peut-être. D'ailleurs, c'est un symbole de liberté, ce qui convient bien à l'auteur des voyages dans les États et empires du Soleil. À cause de Cyrano, peut-être devrait-on en parler d'abord uniquement en termes philosophiques, car cet objet est d'abord une idée, tant il est léger, presque immatériel. Serait-ce qu'il cherche à retourner d'où il vient? Quoi qu'il en soit, il faut prendre une précaution spécifique quand on l'emmène tout juste faire un tour.
Ah bon? Ah oui, faire attention parce qu'il peut être nuisible.
Il peut être nuisible, oui, mais ce n'est pas la première crainte que j'aurais.
Non. Et alors, il y a tout de suite une dimension culturelle avec l'arrivée de Patrick Beignet dans ce jeu.
Tout à Godil.
Vous avez l'impression, Jacques Jouet, que les deux, Patrick Bénier, Odile Conseil, parlent de la même chose?
Bah, Cyrano à vue de nez, je ne sais pas quoi vous dire.
Ah bon? Et vous, Lucas?
Hippopocampe, éléphantocamélos, c'est ça, je pense.
Ah bon, à vous, oui.
C'est dans Cyrano, c'est le,
quatre lettres,
c'est l'animal exotique dont il nous a parlé.
Bon, ils sont paumés, tous les deux. Mais vous,
mais ils montrent leur culture.
Va. Mais ils montrent leur culture. C'est toujours bien de montrer sa culture sur France Culture. Alors, Eva Almassy, tout à l'heure, pendant le temps d'écriture, vous avez découvert ce texte de Patrick Bénier. Vous êtes toujours réjouie quand vous recevez un texte de Patrick Bénier.
Absolument. Parce que j'apprends beaucoup, à la fois sur le monde et sur moi-même.
Ah bon, je croyais que vous alliez dire sur lui aussi.
J'espérais que ce soit sur moi.
Ah non, je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Et donc, en tout cas, je n'avais plus la contrainte, je vous fais souligner, des quatre lettres.
Non,
ça,
absolument.
Ça a disparu.
Ça a
et donc,
disparu.
J'étais très libre d'écrire une sorte de devinette.
Sur quand même une chose à laquelle vous pensiez en ayant lu le texte de Patrick.
Totalement.
Oui.
J'ai planté l'objet de Patrick dans mon esprit et voilà ce qu'il en est sorti. Oui. Si tu m'emportes, c'est que tu es prévoyant. Si tu m'emportes pour rien, c'est là peut-être que tu t'emportes contre moi qui t'encombre. Utile et agréable, je suis là pour toi. Ou du moins, j'étais, oui, je me souviens, je l'ai été, surtout en été, mais seulement pour la moitié de l'humanité, et pas non plus sur les 5 continents. Un indice, je ne suis pas un contenant, quoi que tu puisses, à ton gré, m'ouvrir ou me fermer, sans clé et sans cadenas. Na.
Bon, non. J'ai rien compris, moi. Je sais pas.
Ah si, moi j'ai compris.
Ah bon? Mais Lucas, non, vous êtes sombre, vous aussi. Hein. Pas compris non plus.
Je suis dans l'hémisphère sud.
Elle parle de la même chose que Patrick Bénier?
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, non.
Et
non,
non plus.
Non,
pas du tout.
Non.
Bon, alors, écoutez. C'est à vous, Jacques Vallée, de dire à quoi a pensé Eva Almassy, puisque vous êtes au bout de la chaîne et c'est avec vous que nous allons
c'était
remonter.
C'était d'une clarté absolue.
Ah bon?
Surtout le « na » qui m'a mis tout de suite sur la...
Expression la enfantine, donc c'est lié
non,
à l'enfance.
Non, il s'agit d'un objet usuel, c'est le parapluie. Si tu m'emportes, c'est que tu es prévoyant, c'est-à-dire... On l'emporte parce qu'on pense qu'il va pleuvoir.
Ou parce qu'il pleut déjà.
Non, mais on pense qu'il va pleuvoir.
Ah bon, oui.
Parce que si tu m'emportes pour rien, c'est là peut-être que tu t'emportes contre moi. Bon, ça arrive qu'il ne pleuve pas.
Donc, ah, j'ai pris mon parapluie, il est lourd et il ne pleut pas.
Moi qui t'encombre, donc tout de suite. Bon, alors, routine est agréable pour toi, c'est parfait. Et puis, surtout en été. Parce que en hiver, on sait qu'il va pleuvoir ou on voit le temps. Tandis qu'en été, quand il y a une averse, il faut avoir son parapluie près de soi. Ça, c'est évident. Maintenant, pour la moitié de l'humanité, moi, je viens d'une région où jamais j'ai vu un homme porter un parapluie.
Ah bon?
Non.
Pourquoi?
Il pleut toute la journée. Les hommes sont habitués.
Mais les femmes, oui.
Les femmes ont des parapluies.
Ah, c'est ça.
C'est uniquement...
C'est ce féminin. Qui nous différencie, peut-être.
Oui, pas non plus sur les 5 continents. Il y a des continents où on ne connaît pas de parapluie.
Oh, parce qu'il ne pleut pas. Enfin, est-ce que...
C'est des pays imbéciles où jamais il ne pleut. Enfin, vous savez, comme disait l'autre. Et voilà, je ne suis pas un contenant, il n'y a rien dans le parapluie quand même. Hein,
il peut y avoir des cravates parfois.
Ah oui, c'est ça, si on le retourne.
Il y a pas la pluie vulgaire, il y a du poison.
Oui. Et puis en plus, on peut l'ouvrir à son gré et le fermer. Bon, voilà. Donc c'est d'une telle évidence que...
Et alors, Eva, vous avez voulu parler d'un parapluie?
Non, mais aujourd'hui, on se sert souvent d'un parapluie, notamment les Japonaises et les Chinoises qui veulent rester de peau très blanche. Oui. Mais c'est à l'ombrelle.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est à l'ombrelle. Parce que, à partir du texte de Patrick, moi, je cherchais un objet astral, un petit peu. Je pensais aussi à un ballon. Ou alors un avantage.
C'est sûr qu'avec Patrick, on est toujours dans l'élévation.
Finalement, Cyrano, la lune, le soleil, j'ai pris entre lumière et ombre, mais voilà, j'ai pris ombrelle.
Bon, ben, de l'ombrelle au parapluie, on n'est pas si loin. Patrick Bénier, vous avez été décodé en tant qu'ombrelle, mais est-ce que vous aviez pensé une ombrelle?
Non, je n'ai pas pensé une... Je ne pense jamais aux ombrelles.
Genre, oui.
C'est un principe. que j'aime rigoureusement.
Vous pensiez à quoi ?
Je pensais à un cerf-volant, qui a des rapports avec l'ombrelle. Mais ouais. C'est pas identique.
Oui. Comment vous justifiez ça, d'après ce que vous avez dit ?
Écoutez, l'origine exotique, hein, je crois que ça vient de Chine.
Ah oui.
Supposé. De toute façon, mon texte était parsemé de peut-être, il me semble, etc. C'était extrêmement précautionneux. Les formes fantasques, le côté féerique, irrationnel, la légèreté essentiellement.
Oui.
C'est très difficile de définir le cerf-volant dans l'absolu, disons, à part l'idée. Je veux dire, les formes du cerf-volant sont tellement imprévisibles. Et puis, la notation finale, qu'il faut prendre une précaution spécifique quand on l'emmène faire un tour, parce qu'il pourrait chercher à retourner d'où il vient, il faut le fil.
Et oui, bien sûr. Voilà.
Si vous lâchez le fil.
Et autrement, il s'envole.
Voilà.
Il ne faut pas s'envoler avec.
Il ne faut pas s'envoler avec. Il y a peut-être une chose qui vous étonnera ou qui étonnera Odile.
C'est les quatre lettres.
Mais simplement...
C'est le mot en japonais, non ?
Non. J'essaie de passer un mot, mais c'est difficile, apparemment. C'est que vous ne savez pas, en tout cas les auditeurs ne savent sans doute pas, que l'orthographe d'Odile est souvent un peu fantaisiste, un peu primitive, disons. Et donc, elle fait tenir un tas de choses.
Elle fait son volant en quatre lettres.
Exactement.
Ah oui, non, mais elle est très forte, Odile. Très forte.
Et Cyrano ?
Ben, dans les moyens pour monter vers la Lune, me semble-t il
y a une ombrelle.
Il y a des trucs
mais
du genre.
Il n'avait pas le cerf-volant.
Il n'est pas, il n'est pas nommé.
Vous êtes pointilleux, enfin,
je ne sais pas. En êtes-vous sûr, Jacques ?
J'aurais dû prendre un ballon, j'aurais été plus proche.
Ah. Hein.
Oui. Oui, voilà.
Il n'avait pas le cerveau ?
C'était un calembour.
Ah, mais... Mais oui, ça m'avait échappé. Odile Conseil, vous avez cherché à nous parler du cerf-volant ?
Ah non, mais j'aurais pu, je trouve ça super comme lecture du texte que j'ai fait. Dans le genre objet nomade, vif, allègre, il y a juste la notion de voler, quoi, qui n'est pas dans mon texte. C'est un instrument de musique, un objet nomade, pas du genre qui vous laisse en rade, il n'y a pas besoin toujours de lui remettre de la batterie. Il enchante le moment et réchauffe le cœur, alors pas n'importe quel objet de musique. On l'a vu au ciné dans des scènes à la plage, d'une vedette blonde, il touche le corsage. Pensez un peu à certains Lemchaud.
Oui.
Marilyn Monroe, de quoi joue-t-elle ?
Du ukulélé.
Oui.
Mais il y a plus de quatre lettres.
U-K-L-E. Alors certes, L et E sont utilisés deux fois, mais...
Ah ben
quatre
oui.
C'était un piège.
Oh le piège.
Oh là là. Elle était trop forte pour nous, hein. C'est pas mal. Hein. Donc ce ukulélé est devenu un cerf-volant, ma foi, c'est un joli destin pour un ukulélé.
Et je précise que moi je pensais, le film où l'objet touche le corsage d'une vedette blonde, il y a une comédie dont le titre m'échappe, où Monica Vitti, sur une plage, joue avec un cerf-volant.
Ah oui.
C'est
oui,
pas vrai, mais...
Possible. En tout cas, votre cerf-volant est devenu une ombrelle pour Eva Almassi. Puis un parapluie, mon Dieu. C'est quelqu'un de plus sérieux, quoi. Hein. C'est un autre univers que l'ombrelle, le cerf-volant et le ukulélé. C'est plus utile, oui. On boxe pas dans la même catégorie. Qu'est-ce que vous avez pensé, Lucas, de ce parcours ?
Il y a des cordes, il y a des fils dans son cerf-volant.
Ouais.
Quand il pleut des cordes, on prend son parapluie. et l'ombrelle est tressée de fils dorés. Bravo.
Parfait.
I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring, and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be, for I must have you or no one, and so I'm through with love.
Goodbye to spring, and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one, and so I'm through with love. And so I'm through with, baby, I'm through with love.
C'est Marilyn Monroe qui le disait, I'm through with love. Pour les papous, rien que pour nous, le nouveau feuilleton de Jacques Jouet. Après les amours d'Annette et les inventions de Léonard, les déménagements de Madeleine, qui ne tient pas en place Madeleine, et entraîne son mari Charles ou Charles, selon les moments, dans ses bagages. Jacques Jouet, Madeleine, pourquoi tu déménages? Deuxième épisode.
Issoudun, c'est parfait, dit Madeleine, mais c'est vraiment trop petit. Tu vois, Charles, mon petit Baudelaire de mari, j'ai les talons qui commencent à me chauffer. Si nous allions à Clermont-Ferrand.
Ah, ben c'est bien.
J'ai trouvé un duplex magnifiquement exposé dans la vieille ville, là où la pierre est bien noire et la bise bien froide, mais où l'on apprécie tellement d'avoir le chauffage central qui se fait par un volcan. Oh oui, on ira à l'occasion, dit Charles. On peut y aller 2 jours, pas forcément un week-end. Je croyais qu'ils étaient éteints, les volcans. J'ai pris des billets. Eh ben d'accord. J'ai aussi réservé des déménageurs. Ah. Rappelle-toi, ils étaient vraiment très bien, les déménageurs. J'ai repris les mêmes. Ah, dit Charles. Tu sais pourquoi j'ai choisi Clermont-Ferrand? Non. D'abord, il y a 2 noms, Clermont et Ferrand. En fait, Clermont et Montferrand, c'est un nom-valise. 2 noms. C'est un peu comme si nous déménagions 2 fois. C'est magnifique, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme si nous économisions un déménagement. Je n'y aurais pas pensé. Mais pourquoi pas, hein? En fait, je commençais juste un peu à m'habituer à Issoudun, moi. Les volcans, c'est vrai, ils sont éteints, mais on est juste en dessous. C'est bien le diable s'ils ne vont pas se rallumer un jour ou l'autre. T'aurais peut-être préféré qu'on aille à Naples. Non. Tu vas voir, il paraît que c'est une ville formidable. Tu sais pas ce que m'a dit le frère jumeau de ma cousine Micheline? On trouve des pneus pour pas cher, paraît-il. Comment il s'appelle déjà, le frère jumeau de ta cousine Micheline, celui qui est un peu enveloppé, hein? Je vous le demande. Et puis, il y a la rue des gras. Des petits gras et des gros gras. On va manger du gras contre le froid. Le goût, c'est le gras, c'est ce que disent les vrais cuisiniers. On va grossir, on va engraisser, on va manger du punti. On va pas se révolter contre le punti. Et si on mange trop, on fera une cure. On ira à Roya, c'est limitrophe. Roya guérit le cœur et l'artériosclérose. Tu te rends compte, ils font leur pub en alexandrin. Et puis, il y a la SM. Oh, moi, tu sais, les chaînes, les crochets, les fouets, ça n'a jamais été mon truc. Non, le rugby, tu fais vraiment aucun effort. L'ASM Clermont-Auvergne, enseignement AS Montferrand, on ira au rugby, Charles. Et ils y vont. Pas au rugby, à Clermont. Ils y vont par un beau jour de janvier où le ciel est bas et lourd, pèse comme un couvercle. On ne voit ni le Puy de Dôme ni le Pariou. La cathédrale broie du noir. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas, songe Charles. Ils sortent de la gare avec leur petite valise. Madeleine, dit Charles qui est tombé en arrêt. Quoi encore, ou plutôt quoi déjà? Là, au sortir de la gare, Charles désigne d'un doigt tremblant une plaque de rue, texte blanc sur fond bleu. Là, l'avenue, Madeleine, nous avons remonté le temps. Et alors, c'est quand même pas le goulag. Mais lis donc. Bah oui, avenue de l'Union soviétique. La grande avenue qui passe devant la gare se nomme avenue de l'Union soviétique. Ah ça alors? Mais Madeleine, l'Union soviétique n'existe plus depuis belle lurette. Mais quel ballot, l'Union soviétique n'existe plus depuis des années. Mais l'histoire, oui, elle existe toujours, l'histoire. Ça, c'est une ville qui n'a pas peur de saluer l'histoire dans sa toponymie. On devrait en prendre de la graine, qui est un boulevard de la féodalité, une place de la monarchie absolue, une impasse de la Grande Guerre, je ne sais pas, moi. Ça serait pas mieux que d'honorer des maréchaux d'Empire qui sont des ruffians la plupart du temps? Allez, on n'a pas que ça à faire, faut emménager. Le lendemain est un autre jour, et le temps est radieux. Visible du balcon spacieux, le Puy de Dôme est à sa place, majestueux, caloté de blanc. Le Pariou dessine sa pente douce et caressante. La cathédrale scintille comme un tas d'anthracite. Les volcans dorment. La magnifique barre de HLM qu'on nomme ici la muraille de Chine, avec sa rue de ceux qui voient, bombe le torse. L'air est vif, mais le soleil chauffe. La pression atmosphérique, calculée par Blaise Pascal, est parfaitement équilibrée. Charles lit le journal, c'est la montagne. Et il est question de montagne dans la montagne, de pneus et de recettes au gras. L'adjoint au maire à l'immigration souhaite la bienvenue au nouveau Clermontois. C'est un moment d'une douceur inexprimable, mais que nous venons tout de même d'exprimer sans complexe. C'est nettement plus grand qu'Issoudun, dit Charles avec satisfaction, en croyant ainsi faire plaisir à Madeleine. Oui, mais je me demande, Clermont-Ferrand, c'est trop grand ou pas assez? Je ne suis pas certaine que nous allons y faire de vieux os.
C'est passionnant, hein? C'est quand la suite?
Dimanche prochain. Séquence de ce numéro des Papous dans la tête. Rime de hasard pour poème à notre façon et la critique débourrimée. Alors, Jacques Vallée et Ricardo Mosner seront nos poètes du jour pour écrire des poèmes de 20 vers. Éval Massy et Jean-Bernard Pouy, les lecteurs chargés chacun d'un billet chronique sur leurs poèmes. Les mots qui riment entre eux deux à deux sont imposés, ils ont été écrits sur des petits papiers et au gré de leur humeur par les Papous, Jacques Abertrand, Éval Massy, Jean-Bernard Pouy, Patrick Beignet et même Ricardo Mosner et Jacques Vallée qui peuvent très bien tomber sur leurs propres rimes, ce qui ne les oblige pas à accepter de jouer avec puisqu'ils ont le droit à quelques refus. Jacques Vallée remue, plonge la main dans le chapeau, il y a plein de mots, il va en tirer 5 couples rimant entre eux. Alors ?
C'est Ricardo. Endormi et Ophélie.
Endormi, eux.
Oui, c'est très beau.
Alors, vous prenez vos propres mots, vous n'êtes pas obligé, Ricardo.
Ah, mes propres mots, évidemment, je les prends. Je me prends aux mots.
Je les accepte de grand cœur.
D'accord. Très bien, ça marche entre vous. Ensuite.
Ça démarre brutal, hein.
Strabon.
Strabon.
Oui, S-T-R-A-B-O-N. Ça se prononce Strabon.
Ça veut dire quoi, Ricardo ? C'est un mot de qui, ça ?
C'est pas moi.
De Patrick Beignet.
Ah bon.
Comment pouvez-vous hésiter ?
J'ai pensé que c'était de l'argentin. Mais... Non, j'avoue mon inculture. Je ne sais pas ce qu'est Strabon. Qu'est-ce que ça veut dire, Patrick ?
Mais c'est un nom propre. C'est le grand géographe de l'Antiquité grecque.
Chimélicien.
Premier siècle.
Mais vous l'avez dit.
Même en Argentine.
Il fait ribber ce Strabon avec un bonbon.
Ça, vous connaissez, Françoise.
Je trouve que c'est une très jolie rime.
Je préfère ne pas.
Ah, vous préférez ne pas. I would rather not.
Non.
Non, tant pis. Alors.
Anche et avalanche.
Anche comme la hanche...
D'une dame et une avalanche.
Ça vient de qui, ça?
De Jacques Vallée.
Ah, donc vous prenez, je suppose.
Moi, je prends tout de suite.
Anche et avalanche.
Moi, j'aime beaucoup ces mots-là, mais les pour moi, pour prononcer anche, avalanche, bon...
Oh, c'est pas pire que le reste, Ricardo. Vous prononcez très bien.
Non, mais ça nous ravit quand tu le prononces.
Mais oui, il est délicieux.
Je voulais vous l'entendre.
Alors.
On a l'impression d'une tempête sur les îles Malouines. Anche.
Troisième couple de rimes, Jacques Vallée.
Claquette et maquette.
Claquette, maquette, vous, ça ne mange pas de pain, ça vient de qui ?
Ça vient de
moi,
Eva.
Ça ne mange pas de pain.
Ben oui, tu ne manges pas de pain.
Vous prenez claquette,
oui, pourquoi
maquette,
pas.
Ricardo ?
Oui, éventuellement. Pour les sisters, c'est bien, claquette.
Je vois que vous ne notez absolument rien,
ah non, il faut
Ricardo.
Que
je ne veux pas vous contrarier, mais vous allez
ça,
écrire.
À moins que tu aies une mémoire phénoménale.
Claquette, maquette.
Quatrième couple de rimes.
Humé et plumé.
Plumé ER, plumé ET.
C'est pas des rimes très riches, mais...
Non, mais ça vient de qui ?
De Patrick Beignet. Je sais pas si on va la refuser.
Oh, c'est pas tout à fait à la hauteur de ce que fait Beignet d'habitude, me semble-t-il. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Patrick ?
Je fais ce que je peux.
Humé, plumé... Vous prenez, Ricardo ?
Non, j'aime pas plumé, non. Plumé, ça sent... Oui. Mais déjà, c'est plumé comme
non,
ça.
Non, moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est « mais » qui rime avec « mais ».
Ah oui, c'est pas
mais,
très...
« mais »,
oui.
Il y a une certaine différence, mais peut-être que Patrick ne perçoit
dans ma,
pas.
Dans ma Bretagne natale, on ne fait pas la différence.
Tous les « et » sont les mêmes. Allez, un autre refus. Quatrième couple à nouveau.
Orang-outan est dégoûtant.
Oui, c'est signé.
Eva.
Alors, on prend ?
Oui.
J'ai l'impression que Jacques Bertrand et Jean-Bernard Puy n'ont pas mis de mots dans le chapeau. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, non.
Vos mots ne sont pas tirés. Allez, profond,
Jacques. Non, mais nous, on les a lestés, donc ils sont au fond, c'est pour nous.
Ben, je prends un mot de fond.
Oui.
Justement. Et Ricardo, que nous reniflations et incantations.
Redites-nous ça.
Que nous reniflations.
Reniflations et.
Que nous reniflations.
Incantations.
Incantations, moi je trouve ça intéressant.
C'est intéressant.
Reniflations. C'est pas courant, je l'admets.
C'est une sorte d'inflation.
Et on ne peut rien mettre d'autre que nous avant reniflation.
Oui, moi je ne le prends pas parce que reniflation, c'est laid.
Bon, allez, on jette. C'était un très bel essai. Encore.
Bon, j'espère que ce soit...
Jacques Bertrand ou Jean-Bernard Puy.
Ah, voyante et bacchante.
C'est de qui ?
J.A. Bertrand.
Voyante et bacchante, on accepte.
Ah bah oui, c'est hein, très beau.
Et on va passer le chapeau à Ricardo Mosner, qui va tirer lui aussi 5 couples de rimes. Alors, il y a eu beaucoup de refus, logiquement. Vous n'avez plus droit à autant de refus que ça. Bonne chance, Ricardo. Remuez bien.
Volcan, French cancan.
Alors, moi, si je peux dire, ça me manque vraiment de verbes. Hein. Il n'y a que des substantifs.
Vous avez refusé les reniflis.
Oui, mais les tirs, les verbes, on les mettra à l'intérieur.
Vous avez refusé humain.
Il y en a, hein, mais ils ne sont pas tirés.
Alors, volcan et...
French cancan.
Ah oui, moi, je
vous prenez.
Ça très bien.
C'est, il n'y a pas de nom, c'est l'homme invisible ou l'encre invisible.
Mais non, moi, c'est JB, il y a marqué en bas, c'est moi.
D'accord.
Alors, mot suivant.
Second chance. Oh, mais ça c'est incroyable, c'est les mots les plus beaux que j'ai jamais entendus de ma vie. Rabougri et yakitori.
Ça c'est de vous, non, au moins.
Comment vous savez deviner ?
Attends, ne les écris pas, hein, c'est pas sûr que je les accepte.
Est-ce que vous prenez Jacques Vallée ?
Je voudrais savoir le deuxième mot, là.
Yakitori, qui a jamais mangé les brochettes dans un japonais ?
Oui.
C'est trop compliqué brochettes pour moi.
C'est compliqué mais pour
c'est
Jacques Vallée, il Rabougri. Refuse.
Manger,
on le met
ça.
De côté pour une autre fois.
Mais je ne dirai pas la prochaine fois que c'est les mois. Ça, ça va être le Puy parce qu'il n'y a pas le nom. Montesquieu et Fesse Mathieu.
Fesse Mathieu.
Ça veut dire quoi, Fesse Mathieu ?
Fesse Mathieu avec un trait d'union ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Fesse Mathieu, c'est un bon...
Fesse Mathieu.
Un imbécile. Un imbécile qui se montre...
Un prétentieux.
Arrogant, prétentieux, voilà.
Un imbécile prétentieux.
Un imbécile prétentieux.
Après, Ricardo.
Parchemin et dément.
Demain.
Demain. Tomorrow.
Demain ou demain. Demain.
Demain.
Demain. Demain ou demain.
Demain.
Demain. Demain.
Demain.
Demain. Demain. Non, demain. Pas demain. Demain. Demain.
Demain.
C'est baigné. Je prends encore un autre. Combien il faut prendre? Bon, celui-là, c'est encore l'homme invisible. Flaubert et Camembert.
Oh, ça, c'est très bien. Flaubert, Camembert, c'est du Puy, ben c'est oui. Du très bon ben Puy, oui. De
comment
très bon
sais?
Niveau. Oh, je vous connais un petit peu, je connais votre obsession, je ne sais pas si je vais dire pour Flaubert ou pour le Camembert.
Non, pour le Camembert, oui.
Et dixième couple de rimes.
Jalousie et jacuzzi.
Ah, c'est bien, qui a mis ces beaux mots?
C'est signé bizarrement. Eva.
Et jalousie, c'est écrit avec deux Z à la hongroise.
C'est oui. Avec double Z.
Oui.
Z, jalousie.
Vous avez vraiment mis des papiers dans le chapeau, Jacques?
Oui, cher ami.
Ils sont plus petits que les autres
non,
ou quoi?
Non, ils sont plus discrets, ils sont peut-être plus fins, je ne sais pas.
Alors, je récapitule cette liste de mots rimant entre eux. Deux Z, endormi, Ophélie, hanche, avalanche, claquette, maquette, orang-outan, dégoûtant, voyante, bacchante, volcan, French cancan, Montesquieu, Fesse Mathieu, parchemin, demain, Flaubert, Camembert, jalousie, jacuzzi. Eh bien, amusez-vous tous les deux, Ricardo Mosner et Jacques Vallée. On vous retrouve tout à l'heure. Jacques Vallée, Ricardo Mosner. Ça s'est bien passé, cette écriture poétique.
Oui, c'était poétique.
C'était poétique. Et pour vous, Ricardo, c'était
extraordinaire.
Ludique, en tout cas.
Très ludique.
Bon, vous voulez bien nous rappeler les 20 mots imposés, Jacques Vallée.
Endormie, Ophélie, hanche, avalanche, claquette, maquette, orang-outan, dégoûtant, voyante, battante, volcan, French cancan, Montesquieu, fesse Mathieu, parchemin, demain, Flaubert, camembert, jalousie, jacuzzi.
Des bons mots, des mots valeureux. Est-ce que ce serait le couple hanche-avalanche qui a déclenché votre verve poétique, Jacques?
Non. C'est le nom d'Ophélie.
Ah, ben voilà. Et pour vous, Ricardo Mosner?
Pareil.
Pareil, c'est Ophélie.
C'est inspirant.
Ah oui, on découvre votre poème qui porte un titre, bien sûr.
Offrande.
Oui, et qui serait extrait de quelque chose, d'une œuvre.
Oui, qui s'appelle Les vers galants.
Les vers que vous écrivez vers, B-E-R-S.
Les vers galants.
D'accord. Ben, c'est très alléchant. Et vous avez fait quelle partie? Pris poétique.
Des rimes de huit pieds.
Vous attendez avec que ce soit moi qui dise octosyllabes.
Voilà, exactement, parce que vous le dites si bien. Et c'est des rimes embrassées.
Ah, j'adore.
Offrande. Oui, je désirais Ophélie, étant du bonheur la maquette, elle était reine des claquettes, qui boostait ma vie endormie. Avec mes airs d'orang-outan,
ah ben c'est pas faux.
Sévère comme un Montesquieu, on me disait « Fais ce Mathieu ». Je semblais même un dégoûtant.
Oh, non, jamais.
Quand elle dansait le French cancan, j'adorais le feu de ses hanches. Ses seins tombant en avalanche réveillaient en moi un volcan.
Je sais pas si c'est très bien d'avoir des seins qui tombent en avalanche, mais...
J'imaginais cette battante qui excitait ma jalousie danser dans un jacuzzi sur cette scène si voyante. Cette héroïne à la Flaubert, j'irais lui proposer demain de signer sur un parchemin en lui offrant un camembert.
Ravissant. Ah oui, et tous les autres poèmes des vers galants sont de ce tonneau.
Ah oui, j'offre à chaque fois un légume ou un aliment, ou, parce que je trouve que c'est un don pas périssable.
Ah bah au contraire.
Mais non, oui, mais c'est pas comme les fleurs, au moins ça peut durer un moment.
Ah oui, un camembert, on peut faire la semaine avec. Oui, vous avez
pas
raison.
Trop quand même.
Et puis ce camembert devient Ophélie.
Oui.
Devient sa chair.
Oui, mais c'est nourrissant. Mes cadeaux sont nourrissants.
Oui, parce que vous aimez les femmes qui ont des hanches un peu rondes. Vous voulez les faire grossir, c'est
J'aime
ça.
Toutes les femmes, madame.
Ah, oh, c'est bien ça. Alors, vous savez, Jacques Vallée, que Offrande et les vers galants ont été lus par au moins une chroniqueuse littéraire, poétique même. C'est Eva Almassy qui a écrit quelque chose sur vous.
Oui, et puis quelle chance, un mensuel féminin.
Wow.
Oh, il y a des horoscopes, mais aussi des recettes.
Mais
ça n'a rien à voir, c'est une rubrique vraiment consacrée aux critiques de livres.
D'accord.
Et c'est un mensuel qui s'appelle « Et moi, et moi ».
Alors, une fois en un mot, une fois « et moi ».
Voilà.
D'accord.
Ce mois-ci, dans « Et moi et moi », plein feu sur un poète incandescent, véritable incendiaire, Jacques Vallée.
Wow.
Que l'apparente modestie du titre de son nouveau recueil ne vous induise pas en erreur. Prenez ces vers galants en main, caressez les pages, froid, tiède, chaud. On vous a prévenu, vous allez vous y brûler. Comme il vous en fait l'aveu dans le poème intitulé « Offrande » avec le poète Jacques Vallée, même sous les avalanches couve et Orato fait se réveiller un volcan. Versification classique, mais observez une coquetterie formelle. À chaque titre s'associe un prénom féminin. Ainsi, Offrande
nous
présentait Ophélie, Amour, Amélie, Évasion, Eva, je suis très sensible personnellement. Magnétisme, Magali. Et le poème « Mais vérité » parle d'une certaine Véronique. Dans le poème « Clarté », on attendrait donc une Clara. Pourquoi pas Clara Schumann? Mais étrangement, c'est une Carla. On n'ose pas deviner laquelle. Solitude, mais bien en scène, Solange. Mais il n'y a nul bonnet dans les vers du poème « Bonheur ». Le seul étrangement dépourvu d'héroïne, écrit d'ailleurs en décasyllabes, bref, un breuvage lyrique quoique brûlant, mais déca. Cependant, dire ça, ça n'est rien dire. Vous serez comme nous, subjugués, laissez-vous dévorer par ces flammes poétiques.
Oh, c'est très, très élogieux.
C'est tellement de bonheur, je sais pas où mettre.
Ben oui, mais je suppose que vous allez prendre un abonnement à Émoi et moi, non?
En plus, on me donne une collection, on me prête une collection de dames que je suis loin quand même d'avoir atteint.
Ah ben ça, on n'entre pas dans votre vie privée, Jacques Vallée.
Ouais, vous en avez revendu, vous avez revendu quelques pièces récemment.
Bon, ben, très joli poème de Jacques Vallée qui a mis la barre très haut. Ricardo Mosner. Mais on sait jamais que vous savez grimper aux échelles, Ricardo Mosner. Alors bon, je ne vous pose pas la question rituelle du nombre de pieds, parce que vous
c'est
êtes... Oui, c'est casse-pied, c'est une question qui n'a pas lieu d'être avec vous. On sait que le vers sera argentin à géométrie variable, mais avec les mots imposés à la rime.
Ah oui.
Et donc c'est Ophélie, vous aussi, qui
vous inspire. Oui, c'est elle qui m'a inspiré. Uh-huh. Et le poème s'appelle « Demain la veille ».
Demain la veille. Mmh. Et ça figure dans un recueil, bien sûr.
Oui, oui.
Qui a pour titre ?
Poésie singulière du 21e siècle.
Poésie singulière au masculin, c'est important, c'est ça ?
Oui. Oui,
ah, oui, oui, je comprends. C'est parti, on vous écoute.
Demain la veille. Dans un petit étang fleuri, elle s'est endormie. Non, non, elle n'est pas morte, elle flotte, Ophélie. C'était en 1914, chez un architecte, dans une maquette, un personnage shakespearien, un peu punk, faisait des claquettes. La danseuse Ophélie s'était fait mal à la hanche. L'architecte avait marché sur une banane, provoquant une avalanche. Les colonnes, les escaliers, les fontaines étaient en miettes, c'était dégoûtant. On trouva les coupables. L'architecte du zoo avait amené un orang-outan. Dans ce petit monde, tout grandit, disait Montesquieu, mais les maquettistes qui se prenaient pour Frank Lloyd Wright n'étaient qu'un fesse Mathieu. Et revenons toujours à notre héroïne féminine, comme chez Flaubert, quand Ophélie, ses petites figurines, sortit de l'eau, dévorant un camembert. C'est alors qu'elle s'est mise à danser fougueuse comme un volcan. Elle grandit soudain, ben, ses drames shakespeariens deviennent du French cancan. Ophélie s'ajouta des moustaches et gigotait comme une bacchante. C'était pour provoquer, c'était clair, pas besoin d'être une voyante. L'archi, son demiurge, ainsi la surprit dans les jacuzzi, en embrassant l'orang-outan, et il la tua par pure jalousie. Cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, je l'ai lue dans son parchemin. Incrédule, vous ne me croyez pas, la poésie... C'est pour des mains.
Oh, magnifique, magnifique.
Un tango, comme à chaque fois.
Exactement. C'est avec une pointe d'érotisme, de bon ton. Enfin, il y a un orang-outan, il se passe des choses dans le jacuzzi.
L'orang-outan, il était faux. Hein. C'était une masque avec un truc en peluche.
Ah, mais c'est encore plus excitant.
Alors, c'est pour ça que l'architecte l'a tué. L'a tué.
Ouais, c'est ébouriffant, ce poème de Ricardo Mosner. N'est-ce pas, Jean-Bernard Puy? Alors, bon, je sais qu'à vos heures, j'allais dire perdues, mais non, c'est des heures où vous gagnez votre vie. Vous écrivez...
Non, je suis responsable des pages culture du Clairon de la Ferté-Bernard, qui est une petite feuille de chou, mais d'une très haute tenue.
Ah, mais ben, c'est ce que je voulais dire. Vous gagnez votre vie à vos heures perdues.
Non, c'est pas payé.
C'est presque un... Ah, c'est pas payé. Non, c'est du bénévolat, c'est encore mieux.
C'est du bénévolat.
Oui. Et donc, vous avez lu le recueil de Ricardo Mosner.
Je lis tout ce que fait Ricardo, tout ce que publie Ricardo.
Oui.
Je regarde également sa peinture quand j'ai le temps. Mais je lis surtout. Et donc là, j'ai reçu Poésie singulière du 21e siècle. Oui. Et en lisant les derniers poèmes du chantre Ricardo Mosner, c'est le Rio de la Plata qui coule dans vos artères. Des artères aussi encombrées que les rues de Buenos Aires ou de Mendoza. où se côtoient Shakespeare et Ophélie, Flaubert et Montesquieu, les architectes et les orangoutangs, et tout le monde tout nu dans le jacuzzi municipal de Comodoro Rivadavia. Il y a, chez Mosner, un côté guerre des Malouines. Mais rien qu'avec des mots. Je t'ai cru à même les braises. Des mots que l'on monte à cru comme des étalons. Des textes où l'on meurt en dansant, où l'on se tue en s'embrassant, où l'on pleure en chantant, où l'on rit en les déchiffrant. Bref, des poèmes que l'on ne lit pas, mais que l'on vit. Que l'on ne dit pas, mais que l'on hurle. Que l'on n'apprend pas, puisqu'on ne les oubliera jamais. Même 6 pieds sous terre. Et si le 21e siècle, c'est ça, alors abat le 22e. Le siècle sera mosnérien ou ne sera pas. Sera ricardien ou ne sera pas. Ricardo de jouvence, Mosner du temps, Ricardo miraculeuse, Mosner de la guerre.
Si élogieux.
On rit tranquille maintenant.
Mais oui, et vous pouvez rougir comme vous le faites très délicatement sous votre chapeau.
Les oreilles comme la couleur du chapeau de Jean-Bernard.
Vous avez déjà eu une critique aussi.
Jamais.
Élogieuse. Jamais si élogieuse, vous en avez eu, mais.
Oui,
mais. On sent que ça sort du cœur de Jean-Bernard Puy.
Il est très touché.
Ouais. Cœur et triple.
Le cœur, les triples fois, tous.
La viande.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel, à podcaster sur franceculture.fr, puis rejoignez notre page Facebook pour communiquer en toute amitié. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres aventures papouesques. Au revoir, passez un bel après-midi à l'écoute des programmes du dimanche de France Culture.